Bon, cette idée de l'homme nouveau existe-t-il? Comment ça m'est venu? Ben, à partir de cette question des transformations et que ben, c'est l'homme nouveau, en particulier de ma position de médecin et aussi directeur de recherche en psychopathologie, enfin d'un certain nombre d'expériences, voilà, ça m'est venu spontanément. Bon, déjà, puisque vous êtes présenté, effectivement, donc moi-même, je suis médecin hospitalier, à la base, donc médecin physiologiste, et puis j'ai fait aussi, donc je suis maître de conférence en médecine, mais j'ai fait aussi des travaux, enfin des thèses, mémoires, habilitation à diriger des recherches en psychopathoclinique, et donc je dirige aussi des recherches en psychopathoclinique. Dernière expérience, c'est ce fameux appel des appels dont vous avez peut-être entendu parler. Donc voilà, toute cette expérience cumulée fait que, effectivement, mon point de vue de médecin à la base, physiologiste, pratiquant de l'exploration fonctionnelle respiratoire, donc vous voyez, très ciblé, eh bien, mon champ s'est ouvert, et notamment dans les sciences humaines, hein, effectivement. Voilà, mais ça s'est fait petit à petit à partir de transformations, je crois moi-même. Je suis, j'ai été donc happée par ces transformations, aller vers là où j'avais envie d'aller. Hein. Il y a Cromwell qui dit, j'aime bien citer cette phrase de Cromwell, on ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. Donc c'est un peu, voilà. Et en fait, je suis à l'hôpital Nord de Marseille depuis 1979. Hein. Donc je ne suis pas bougée, je suis à la fac de médecine. Mais en même temps, arpenter beaucoup de chemins de connaissances. Donc bon, l'homme nouveau, c'est bien sûr pour aussi bien le critiquer que aussi l'appeler. Et l'appeler dans le sens peut-être de l'utopie, où si on a le temps, on verra quelques définitions de l'utopie. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme utopie? C'est un mot qui peut aussi bien nous faire horreur que, au contraire, nous stimuler et se dire après tout, bah, l'utopie, pourquoi est-ce que on n'envisagerait pas, hein? Alors donc, une des premières citations, c'est celle d'une épistémologue, Isabelle Stengers, qui dit que le premier sens d'une utopie est de rendre attentif à ce qui, habituel, semble normal, mais peut, dans la perspective de l'utopie, apparaître comme inacceptable, contribuant à séparer notre réalité de ce dont l'utopie dit la possibilité. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, bah, c'est que, bah, vous avez entendu sans doute ce que j'ai dit. Bah, par exemple, l'esclavage. Hein. L'esclavage, c'était quelque chose de tout à fait normal, j'imagine, il y a 2, 3 siècles. Et puis, bien sûr, l'utopie, ça pouvait être pour certains l'abolition de l'esclavage, et c'est arrivé. De même, aujourd'hui, il y a des utopies qui, peut-être, nous paraissent impossibles à réaliser, et pourtant, peut-être qu'elles se réaliseront. Donc, bon, voilà. Donc, l'utopie du changement, je pense que, quelque part, ben, on a à y croire, hein. C'est presque de l'ordre de la religion, c'est presque de l'ordre d'une croyance, mais je pense que cette utopie, donc, elle ne saurait être vaine, et qu'au contraire, elle nous ouvre au sens des possibles, hein, comme dit Isabelle Stengers. Elle éveille donc conscience et elle nous mobilise. Donc, pour argumenter mon propos, comme je vous l'ai dit, hein, je vais vous dire un certain nombre de banalités. Hein. Ce que je viens de vous dire, c'est très banal. Je ne pense pas que je vous ouvre des horizons extraordinaires en vous disant ça. Mais ce que je vous dis, donc, je vais essayer de le nourrir de cette expérience, donc, qui, quand même, maintenant, a plusieurs décennies. Il y a des avantages à l'âge, comme je dis souvent, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre de l'âge. Et donc c'est cette expérience-là que nous pouvons par que je peux vous faire partager ce soir, vous dire quelques points à partir de mon expérience, aussi bien clinique, hein, enfin de la médecine déjà, au sens où, ma foi, je pense connaître un petit peu la médecine par certains secteurs, par tout ce que j'y vois, parce que j'ai le sentiment par moment de faire un travail à l'hôpital d'anthropologue, in fine, plus de voir un petit peu ce qui se passe autour de moi que vraiment ce travail de technicien finalement, hein, de laboratoire, hein, comme j'appelle les médecins actuellement, les ingénieurs de santé, hein, ce sont plus des médecins, bien souvent, à leur grand... enfin, ils en sont très malheureux, hein, aussi, hein, il faut bien voir. Dans mes propos, je ne critique jamais les professionnels, hein. Tous les professionnels méritent du respect et ils sont souvent en souffrance et malheureux de ce qui leur tombe dessus. J'y reviendrai si on a le temps. Donc, quand je critique le médecin comme ingénieur de santé, c'est bien sûr, c'est pas le médecin lui-même, le pauvre, je dirais, hein, puisque on l'a mis dans cette situation. Et quelque part aussi, il y contribue. On verra comment, avec, enfin, entre autres, bon, je peux vous le dire déjà, ce qu'on a travaillé à l'appel des appels, ce qu'on appelle la servitude volontaire, hein, comment, eh bien, quelque part, on contribue à notre propre asservissement. Et c'est pour ça que, bon, l'idée, c'est de réveiller les consciences, hein, que chacun puisse, eh bien, comme vous faites là ce soir, en somme. Ce que vous faites en venant ici, bah, c'est un petit acte de résistance, je dirais. Hein. Vous avez pris de votre temps. Moi, voilà, pour moi, c'est les actes de résistance, c'est plus ces prises de conscience, ces petits pas qu'on fait que la révolution qu'on peut faire en Tunisie, bien sûr, parce qu'ils sont dans une telle situation que, ils n'ont plus le choix à un moment donné de faire la révolution en Libye ou ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais bon, voilà, il y a des moments où... Effectivement, on n'a plus le choix. Mais nous, dans nos sociétés quand même démocratiques, quelles que soient les critiques qu'on peut faire, nos actes de résistance, ce sont des actes un petit peu comme cela. Voilà, vous êtes cinq là à venir m'écouter. Moi qui ai un peu travaillé aussi, c'est ma forme de résistance. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est ce que je sais faire. Après, aller dans la rue, prendre des armes ou je ne sais quoi, je ne sais pas faire. Et je ne pense pas que je ferais, ou alors il faudrait vraiment que ce soit, qu'on soit dans une situation gravissime. Donc, premier élément de réflexion dans ce que j'ai préparé, c'est, j'ai fait un petit topo il n'y a pas longtemps, dans un autre cadre que celui-ci, sur la question de la retraite, au moment où il y avait tout ce débat. Et moi, je l'ai pris par cette réflexion sur cette retraite qu'on nous dit qu'il faut absolument aller jusqu'à 67, 70, etc. Moi, j'ai pris cette réflexion à partir de l'allongement de la durée de la vie. Donc, l'allongement de la durée de la vie, voici une nouvelle qui nous est devenue familière, un fait incontestable. Donc, on part souvent dans notre culture actuelle, de faits très tangibles. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, allongement de la durée de la vie. Donc, eh bien, on va travailler plus longtemps. C'est tout bête, tout simple. On n'a pas à réfléchir plus que ça. Alors, bon. Alors, il faut voir déjà cet allongement de la durée de la vie. Il s'est accru au cours des siècles et plus particulièrement récemment. Hein, c'est très récent à l'échelle de l'humanité, c'est absolument récent. Hein, même s'il y a toujours eu des personnes qui ont vécu longtemps, mais pour la population, c'est très récent. Et on nous présente souvent cet allongement de la durée de la vie comme dû au progrès de la médecine. Alors que, en fait, bon, je vais vous le montrer. Vous le savez peut-être, hein, mais bon, encore faut-il le redire et apporter de l'eau à notre moulin. Les questions socio-économiques sont fondamentales dans ce progrès, dans l'allongement de la vie. C'est grâce au progrès socio-économique qu'on a cet allongement très conséquent de la durée de la vie. Donc, dans notre culture du taux. Toujours plus au sens quasiment exclusivement économique et comptable. Donc, dans ce toujours plus d'années de vie, on se dit, mais c'est formidable, c'est une merveilleuse nouvelle pour l'homme. Voilà cet homme nouveau qui va vivre 80 ans, 100 ans, 120, c'est la limite. Enfin, il y a une secte aux États-Unis qui travaille avec des scientifiques qui s'appelle la secte des immortels et qui espère qu'un jour l'homme ne mourra pas. Donc voilà un des hommes nouveaux. Je ne sais pas si c'est une espérance ou un cauchemar. Donc logiquement, de cette manne que nous offrirait la médecine, il serait donc normal, logique, de travailler plus longtemps. Autre logique imparable, puisque la médecine nous offre ce magnifique progrès, et que cette médecine, donc cette médecine, on va l'appeler médecine technoscientifique, hein, je vous ai parlé déjà de médecin ingénieur de santé, donc médecine technoscientifique, c'est ça la médecine actuelle, la médecine de nos jours. Bien, puisque cette médecine technoscientifique coûte très cher, eh bien là encore, logique imparable, eh bien on doit faire des choix, hein, qu'est-ce qu'on veut? Alors notamment, ben, on serait censé renoncer à la gratuité des soins pour tous et accepter de payer toujours plus pour être soigné, hein, c'est logique. Alors l'allongement de la vie particulièrement significative depuis le 19e siècle, comme je vous l'ai dit, n'est pas liée au progrès de la médecine. Enfin, elle est liée au progrès de la médecine, mais sûrement pas à l'origine au progrès de la médecine. La médecine a progressé. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'y passerai des heures, mais la médecine a vraiment progressé depuis les années 50-70. Avant, la médecine était quand même assez préhistorique, hein. On ne guérissait pas tellement grâce à la médecine, hein. Donc, quand je parle pour ma part aussi de médecine, il faut voir que ce n'est pas de santé publique dont je parle. Parce que la santé publique gère des populations, hein, c'est pas pour moi vraiment de la médecine. Donc gère des populations, ce que Foucault appelait, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, de biopouvoir. Hein, de biopouvoir, donc, c'est cette manière de pouvoir gérer des populations à partir de cette notion de santé qui n'est pas un concept. Hein, c'est une notion très molle. Et donc les politiques de santé publique nous font croire abusivement qu'il suffirait de bien se comporter pour bien se porter. Hein. Donc bah, ne pas boire, ne pas fumer, faire une demi-heure de marche par jour, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, bah, bravo, on a gagné, on va vivre jusqu'à 80, 100 ans. Non, c'est pas ça du tout. Donc la médecine, pour moi, c'est un champ d'activité qui a pour mission essentielle de lutter contre les maladies. Et ce que la médecine, malheureusement, a beaucoup laissé de côté, traiter les malades. C'est ce que la psychologie, la psychanalyse en particulier, a récupéré, hein, c'est-à-dire la fonction psychothérapeutique du médecin. Cette fonction psychothérapeutique du médecin a été. C'est pour ça que quand au médecin vous dites la clinique, eh bien, c'est les psychologues qui peuvent l'exercer. Ah bon, la clinique, ah bon, pour eux, c'est les médecins, la clinique. Mais ils n'ont pas, ils se sont pas rendu compte qu'ils l'ont perdue, cette clinique. Hein. Ils l'ont perdue pour le moment. Est-ce qu'ils la récupéreront un jour avec les psychologues, hein, bien sûr, ensemble, parce que non pas en rivalité, eh bien, nous verrons. Hein, l'avenir nous le dira. Bon, c'est une utopie, là, une des utopies que l'on peut. Tout au long de ce que je vais vous raconter, on peut en discerner quelques-unes. Vous savez d'ailleurs que pour notamment les psychologues, peut-être, vous avez entendu peut-être parler de Balint, ça vous dit quelque chose. Et Balint disait, donc ça aussi c'est un petit peu un de mes dadas que je répète souvent, Balint disait que la fonction psychothérapeutique du médecin, l'entretien long notamment avec les malades, serait exercée en utopie, avec un grand tu. C'est dans un pays lointain, en utopie, il dit ça dans son livre de 1957, Le médecin, son malade et la maladie. Hein, il le dit noir sur blanc. Donc voilà, il y a de l'utopie à traiter le malade, quand même. On est dans une drôle d'époque. Hein. On sait traiter les maladies, mais on ne sait plus traiter le malade. Et je le vois au quotidien, ça, comment ça se passe. Avec la tarification à l'activité, l'hyperactivité à l'hôpital. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Eh bien, on n'a plus le temps de s'occuper des malades. On n'a pas le temps. Alors, on fait comme on peut. Pour quelqu'un comme moi qui travaille vraiment dans ce domaine-là, etc., je fais de mon mieux. Mais c'est très difficile. On n'a pas le temps. On voit des patients, des patients, des patients, parce qu'il faut accumuler des actes. Donc, qu'est-ce qui a fait l'allongement de la vie depuis le 19e siècle? C'est les conditions d'hygiène, l'élévation du niveau de vie, capacité de se nourrir correctement et avoir accès aux soins aussi. Hein. Bien sûr, il faut avoir accès aux soins. C'est pas le tout d'avoir des soins, hein, de savoir traiter les maladies. Mais si on n'y a pas accès, bah, C'est pas possible. Hein. Donc, je vais vous donner l'exemple du sida en particulier. Et il faut savoir aussi, avant d'en venir à cet exemple du sida qui est intéressant, il faut savoir que dans un premier temps, l'allongement de la vie a été pour l'essentiel dû à la réduction de la mortalité infantile. C'est parce que les enfants ne mouraient plus comme ils mouraient, comme des mouches, hein, pour parler trivialement. Donc, c'est le mirage des chiffres, c'est-à-dire allongement de la vie, mais en fait, c'était uniquement par le fait que les enfants. Et vous savez, l'histoire des femmes qui mouraient en couche. Hein, vous connaissez Semmelweis, si vous allez à Budapest, vous voyez ce médecin du 19e siècle qui, le premier, a introduit l'hygiène des mains pour l'accouchement des femmes. Il a été très maltraité. Enfin, bon, il était en plus un peu farfelu, mais bon, il a été vraiment très mis de côté, enfin, absolument. Mais c'est lui qui a. Fait. Ah oui, c'est terrible hein, de savoir. Les premiers anesthésistes aussi, ils ont eu tout un mal fou pour faire accepter l'anesthésie. Hein. L'histoire est faite comme ça, de difficultés à faire accepter la nouveauté aussi. Vous voyez que cette nouveauté, on peut la faire travailler de différentes manières. Soit elle peut nous amener le pire parce qu'on appelle nouveau des choses qui ne sont pas nouvelles et qui vont nous asservir. Soit au contraire, quand il y a des événements qui sont vraiment nouveaux, on ne les accepte pas, c'est-à-dire la trop grande originalité n'est pas acceptée. Et donc Semmelweis le premier introduit l'hygiène des mains, donc c'était dans Dachau, vous savez que c'est Céline qui a fait une thèse, Louis-Ferdinand Céline a fait sa thèse de médecine sur Semmelweis. Et oui. Oui, il était médecin, Louis-Ferdinand Céline. Et donc, voilà, à partir de Semmelweis et ensuite, les femmes ne mouraient plus en couche puisque elles ont contaminé les femmes les unes derrière les autres, puisqu'on accouchait sans du tout aucune hygiène des mains. Et donc, c'est pour ça que les gens ont très peur d'aller à l'hôpital toujours. Dans l'inconscient collectif, il reste quelque chose. C'est-à-dire, on va à l'hôpital, on meurt. Donc, ces femmes. Quand elles étaient riches, elles accouchaient, enfin riches, qu'elles avaient les moyens d'accoucher chez elles, elles faisaient venir la sage-femme. Et comment? D'accord. Donc elles accouchaient chez elles, et là, elles accouchaient dans des conditions, bon, qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, mais quand même, elles avaient des chances que leur bébé survive, si on peut dire. Et celle qui allait accoucher à l'hôpital, elle mourait une sur deux au moins. Hein. Donc, vous imaginez la terreur des femmes de devoir, les pauvres, donc, elles allaient accoucher à l'hôpital et elles avaient toutes les chances que leur bébé meure et qu'elles-mêmes meurent. Hein. C'était ça, la médecine, enfin la médecine, l'hôpital, les soins du 19e siècle. Donc, vous voyez que la question de l'accès aux soins est de nos jours primordiale et on peut dire même plus importante que les soins en eux-mêmes. Si c'est réservé qu'aux riches, comme ces fameuses femmes du 19e siècle qui avaient les moyens d'accoucher chez elles, si demain on en arrive à être soignées que si on a de l'argent, vous imaginez ce qui va se passer. Ça va être une catastrophe. Alors, si on prend par exemple si on prend l'exemple du sida, il faut savoir que. Dans les pays, bien sûr, où il n'y a pas cet accès aux soins. Parce que chez nous, donc, bon, l'épidémie du sida date des années 80, donc on a découvert les trithérapies dans les années 90, et alors que les patients atteints de sida mouraient en moyenne à l'âge de 48 ans, hein, donc vous voyez que cet allongement de la vie avec une épidémie comme le sida, eh bien, c'est une catastrophe, donc c'est tombé à 48 ans, eh bien, de nos jours, avec les trithérapies, c'est remonté à 63 ans, la moyenne, voilà, l'allongement de la durée. L'espérance de vie des patients atteints de sida était de 48 ans au début de l'épidémie et maintenant elle est de 63 ans. Bon. Donc, pour le sida dans les pays où il n'y a pas accès à ces soins, eh bien, c'est une catastrophe complète. Vous le savez peut-être sûrement, mais bon, je vous donne des chiffres. Donc, en 2001, l'espérance de vie. Dans certains pays africains, l'espérance de vie globale, donc de toute la population, était de 40 ans. 40 ans. Vous vous rendez compte? En un peu moins de 20 ans, les Sud-Africains ont perdu 12 ans d'espérance de vie. Celle-ci est passée pour les Sud-Africains de 62 ans en 90 à 50 ans en 2007. Donc 12 ans, malgré les trithérapies. On estime, alors, aussi, problème que ça va poser, c'est la main-d'œuvre qui va baisser dans les années à venir, puisque toutes ces populations de jeunes, ce sont des jeunes en plus, sont décimées. Eh bien, en Afrique subsaharienne, quatre pays verront une diminution de leur main-d'œuvre de plus de 30% en 2020. 30% de la main-d'œuvre qui va diminuer par rapport à ce qu'elle aurait été sans l'épidémie. Et puis, dans d'autres pays aussi, ça peut être 10, 30, 10 à 30% et 10%. Donc, vous voyez. Donc, on n'est pas nous-mêmes à l'abri pour X raisons de cette espérance de vie qui peut régresser. Hein. Là, je crois qu'on est au plus haut de toute façon, puisque dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, on a fait des études où on montre que l'espérance de vie a baissé. Hein. On n'est plus dans l'espérance de vie. Et on voit bien avec toute la pollution qu'on a. Les enfants, bon, vous êtes de ces générations-là, hein, qui sont nés dans les années 70-80, eh bien, ont mangé beaucoup de, ont été nourris, ont respiré, ont été soumis à une forte pollution. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans? Regardez pour l'amiante, par exemple, les pathologies liées à l'amiante, elles se sont révélées 30 ans après. Hein. Donc, bon, je ne veux pas vous casser le moral. Bon, tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas très rigolo.
Donc c'est la prévention qui n'est plus ce que c'était à un moment donné. Hein. Et la prévention aussi, elle a chuté actuellement. Tout ce qui est prévention.
Bien sûr, toujours pour ces fameuses raisons économiques aussi, qui fait que, bah, voilà. Donc, au lieu d'avancer, en fait, on régresse. Hein. Et donc, l'exemple du sida me paraît intéressant parce que. Bon, c'est grossi, donc on voit à la loupe ce qui peut se passer pour bien d'autres choses. Hein. Et donc, bon, bien sûr, le sida, au début, on disait c'est les autres, c'est telle population à risque, etc. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, bien sûr. Et puis pour tout ce qui est toxicité, pollution, hein, c'est tout le monde. Hein. Alors, en fait, si on veut reprendre cette question du biopouvoir que dénonçait déjà Foucault, eh bien, on peut dire qu'avec la surveillance des corps et des hommes, permise par cette notion vague de santé que nous devrions préserver tel un capital, c'est la soumission qui se trouve instillée en chacun de nous. Parce qu'avec la notion de santé, vous voyez, où on nous dit comment il faut nous comporter pour bien nous porter, eh bien, on nous inculque le fait que tout ça, eh bien, c'est quelque part la faute de chacun d'entre nous. C'est pas effectivement les politiques de prévention, l'accès gratuit aux soins, etc. Donc des choix politiques, hein, des choix politiques qu'on a à faire. Est-ce qu'on choisit l'accès gratuit aux soins pour tous ou pas? On va nous dire, ah oui, mais on ne peut pas faire autrement. Non, c'est une question de choix. On peut très bien faire un accès gratuit aux soins pour tout le monde. Donc soumission favorisée aussi, pour prendre ce fil rouge du nouveau, de l'homme nouveau, par un nouveau vocabulaire. Hein, un nouveau vocabulaire qui naît, comme le dit un auteur dont j'ai oublié le nom, qui n'est qu'une grammaire de la soumission. Hein, c'est-à-dire avec ce vocabulaire, par exemple, donc la question de la santé, j'y reviens, que l'on préfère mettre à la place de la moins excitante lutte contre les maladies. Hein, plutôt que de parler de lutte contre les maladies, eh bien, ça soumet plus ces populations de dire bah, la santé, c'est votre capital, c'est à vous de le faire fructifier, de le préserver, etc. Vous voyez comment on peut finalement, par des mots comme ça, de santé qui est contre une bonne santé pour tout le monde, ce
Cinq
serait.
fruits, cinq légumes, tout le monde.
Voilà,
C'est pas
avec
mal.
des. Voilà, et les yaourts, alors, Danone et compagnie, on va y revenir, mais c'est très bien, quoi. Hein, je ne sais pas combien de yaourts ils nous demandent de bouffer. Je dis bouffer parce que pour ceux qui n'aiment pas les yaourts, les pauvres, ou le lait. Donc, eh ben, dans ce sens du nouveau vocabulaire, on peut prendre l'exemple de la nouvelle dénomination des hôpitaux. Je vais y revenir sur l'hôpital à plusieurs reprises si j'ai le temps. Donc, on peut prendre l'exemple de cette nouvelle dénomination des hôpitaux pour montrer comment ces changements de vocabulaire vont modifier nos sensibilités psychologiques et sociales. Hein, comment on va percevoir autrement les choses. On est manipulé, hein, bon, sans être parano, mais on est manipulé par cette manière de nous dire, de nous nommer les différents éléments divers et variés, dont l'hôpital. Alors l'hôpital, comme je vous l'ai dit à l'instant, malgré les horreurs qu'il y avait à l'hôpital, hein, bon, on y mourait, il y avait toutes sortes d'infections possibles. Maintenant, on crie au scandale sur les maladies nosocomiales, mais maladies nosocomiales, justement, de ces femmes qui accouchaient à l'hôpital, autre que maladies nosocomiales, pour parler vulgairement. Hein. Mais il n'empêche que l'hôpital s'inscrit dans une longue tradition d'accueil des pauvres, des voyageurs étrangers, c'est pas rien hein, de nos jours, quand on sait le sort qu'on réserve aux étrangers, on ne veut plus les accueillir à l'hôpital. Hein. Donc l'hôpital s'inscrit dans cette tradition d'hospitalité, hein, et c'est pas rien. Or, le mot hôpital est aujourd'hui remplacé par celui d'établissement de santé. On est censé, bon, on va continuer à parler d'hôpital pendant très longtemps, hein, dire qu'on va à l'hôpital, etc. Mais en fait, dans les textes et dans les discours de nos managers, eh bien, c'est un établissement de santé. C'est pas un hôpital. Ce mot hôpital tend à disparaître de tous les textes. Donc, on peut, ce faisant, passer plus facilement à la conception d'un hôpital entreprise dont l'activité devrait se maintenir à un haut niveau pour une meilleure rentabilité. Hein, donc, établissement de santé, entreprise, rentabilité, ça choque moins que hôpital ou quelque part dans l'inconscient collectif de chacun. L'hôpital, c'est un lieu d'hospitalité, comme son nom l'indique. Et quand on est passé du tarif de journée pour l'attribution des recettes de l'hôpital. Hein. L'hôpital est payé à partir de recettes prises à partir de la sécurité sociale, etc. Bon, enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était le prix de journée qui faisait que l'hôpital recevait donc l'argent pour fonctionner. Prix de journée, ça veut dire prix hôtelier au sens où on héberge les gens. Ils sont là, ils viennent. Là, maintenant, c'est une tarification à l'acte, hein, c'est-à-dire que ce sont les actes des soignants hein, qui sont évalués. On évalue l'activité hospitalière par les actes techniques. Hein. Donc, on va parler aussi de cette technique si on a le temps, comment toute cette technique eh bien, fait disparaître l'humain, hein, du fait qu'on transforme toutes nos activités en actes techniques, et eh bien quelque part, c'est l'humain qui passe à la trappe. Et donc, avec la tarification de l'activité, c'est pas rien du point de vue du sens déjà que l'on donne à l'hôpital. Hein, savoir qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital ? Est-ce qu'on fait du soin ? Ou est-ce qu'on fait de l'activité qui est censée amener une rentabilité de l'hôpital ? Ça n'a plus rien à voir, enfin, de l'établissement de santé. D'ailleurs, de toute façon, vous savez qu'entre l'hôpital public et l'hôpital, les cliniques privées, il n'y a plus de différence. Hein. Il faut être clair avec ça. Il n'y a quasiment plus de différence. Hein. Juste une des différences vraiment les plus importantes, c'est qu'à l'hôpital public, les médecins sont salariés. Enfin, l'ensemble du personnel est salarié, mais les médecins. Alors que dans les cliniques privées, ils sont payés à l'acte. Hein. C'est à peu près la seule différence. Après, les missions de service public des CHU, par exemple, centres hospitaliers universitaires qui sont censés former des internes, etc., petit à petit, ça va être aussi pris dans l'activité des cliniques, mais pour formater dans le sens d'une productivité des médecins hein, et pas du tout dans le sens d'une meilleure formation. Donc, il n'y a plus grande différence entre l'hospitalisation publique et l'hospitalisation privée. Donc, ce qui veut dire qu'on se rapproche de l'hospitalisation privée, bien sûr, hein, des cliniques privées, et pas l'inverse. Alors, quand la directrice des hôpitaux de Paris, Rosemary Van Lerberg, anciennement directrice des ressources humaines chez Danone, donc elle était directrice des ressources humaines chez Danone, quand on sait ce que sont les ressources humaines, hein, qui servent à plus à dégraisser que... qu'à placer les gens au bon endroit. Eh bien, quand Rosemary Van Lerberghe a pris ses fonctions au début des années 2000 en tant que directrice de l'APHP, elle a déclaré que l'activité de l'hôpital ne devait pas diminuer. Vous voyez déjà l'absurdité de dire qu'une activité qui consiste à soigner des gens malades ne doit pas diminuer. Mais au contraire, si elle diminue, c'est formidable, ça voudrait dire qu'il y a moins de malades. Déjà, elle ne se rendait pas compte de l'absurdité de ce qu'elle disait, parce qu'elle venait de chez Danone et que des pots de yaourt, eh bien, bien sûr, il fallait beaucoup en produire et trouver les consommateurs. Vous voyez l'esprit qui est du coup, alors ça peut paraître amusant ce genre de choses, mais le problème c'est qu'il y a tout un esprit derrière, toute une manière de ces sensibilités psychologiques et sociales dont je vous parlais, ça amène à une certaine sensibilité. Moi, je ne suis pas trop dans les secteurs administratifs de l'hôpital, de la faculté de médecine. Je fuis tout ça parce que je trouve que ça prend du temps, ça ne m'intéresse pas. Mais par exemple, et donc j'y vais plus, comme je dis, en anthropologue pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et dans les réunions de pôle qu'on a organisées depuis quelque temps, depuis la tarification de l'activité, qu'est-ce qui se passe dans ces réunions de pôle quand on se retrouve tous réunis, médecins, infirmières, aides-soignantes, secrétaires? Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre des chiffres, donc l'hôpital, où il en est de ses dépenses et combien on doit économiser et combien on a économisé et combien on a dépensé. Ça sert à nous formater sur cette culture du chiffre et de l'économie, jusqu'à nous dire, par exemple, bien, mesdames les infirmières, quand vous faites des nuits, eh bien, vous savez, alors qu'elles font des nuits, parce que d'abord, peut-être qu'elles en ont besoin pour leur famille, pour nourrir leurs enfants, etc., j'en sais rien, et puis parce que il manque du personnel, eh bien, vous coûtez de l'argent au pôle. Vous voyez, non seulement on les fait venir pour travailler la nuit, mais en plus on les culpabilise. Donc c'est d'un cynisme absurde. Et donc, Madame Van Lerberghe, il faut que je l'écris sous les yeux pour arriver à prononcer son nom, qui venait de chez Danone, donc a écrit un ouvrage qui s'appelle « Quand elle est partie de la PHP, oui, la réforme est possible ». Et elle reprenait avec ferveur le slogan « L'économique, c'est éthique ». Pour elle, voilà, l'économique, l'impératif économique, c'est éthique. Donc, moi, je dirais que l'allongement de la vie étant dû aujourd'hui au progrès de la médecine, c'est plus que jamais de justice dans la redistribution des richesses des pays dont nous avons besoin. Et dans ce sens, d'ailleurs, on pourrait dire, effectivement, l'économique, c'est éthique, à condition qu'on redistribue les richesses. Donc, le point de vue économique, effectivement, est intéressant, mais tout dépend comment on le prend. Parce que, bien sûr, dans tout ce que je raconte, il ne s'agit pas de jeter les questions économiques, etc. Elles sont importantes, on en discutait juste avant. Bien, c'est important, la redistribution des richesses, que chacun puisse gagner sa vie, véritablement, et pas la perdre à la gagner, comme on dit. Donc ça, c'est important. Alors, l'allongement de la vie concerne-t-il des personnes en bonne santé ou bien plutôt, donc, je pose la question, des patients atteints de diabète, d'asthme, d'emphysème, de bronchite chronique, de tuberculose, de sida, de trisomie 21, d'hypertension artérielle, mucoviscidose. Je pourrais passer la nuit à vous citer toutes les maladies possibles et imaginables. Et par exemple, si on prend ces quatre maladies-là dans ma liste, sida, trisomie 21, mucoviscidose, cancer. Eh bien, on sait très bien qu'avec les progrès de la médecine, le sida, vous avez vu, je vous ai donné les chiffres, allongement de la vie énorme, très important quand même, ils mouraient tous, quasiment tous très jeunes. Trisomie 21, eh bien, ce qu'on appelle communément les Mongoliens, enfin on appelait comme ça, eh bien, vous savez que maintenant, ils se retrouvent en maison de retraite, ils vivent jusqu'à 60 ans, ils avaient des pathologies associées, cardiaques, etc. Maintenant, on sait les traiter, donc allongement de la vie. Mucoviscidose, eh bien, moi, je vois tous les jours par mon activité des patients qui ont des greffes pulmonaires atteints de mucoviscidose et qui vivent donc jusqu'à 40 ans, voire demain peut-être 60 ans, alors qu'ils mourraient tous vers l'âge de 20 ans. Donc, allongement de la vie, oui, Mais voilà, nous vivons effectivement plus longtemps, mais ce sont surtout des personnes malades qui vivent plus longtemps. Alors malade, ça peut être une hypertension artérielle qu'on a besoin de traiter, c'est pas forcément. Mais il faut pouvoir se payer ses soins. Enfin, se payer, que la collectivité paye ses soins, pas que chacun d'entre nous les paye, parce que avec le coût de la médecine, c'est pas possible de toute façon, hein. On y engloutirait tous tout notre argent. Alors donc, on nous dit qu'à la retraite à 60 ans pourra être possible en cas d'invalidité, mais vous imaginez sans peine le nombre de patients que je rencontre et qui, au moment de la retraite, tombent malades, hein. C'est une coïncidence, forcément. Alors, au-delà des explications psychologiques de peu d'intérêt dans notre propos, hein, je veux dire, on ne va pas psychologiser cela, il faut éviter, hein, parce que là, de nouveau, on retombe dans l'implication de chacun dans ce qui lui arrive. Alors, du point de vue de la psychanalyse, c'est très important, hein, du point de vue de la cure analytique, de dire à chacun, eh bien, quelle est ta part dans les maux dont tu te plains, bien évidemment, sinon, on ne change rien, on dit tout ce qui m'arrive, c'est lié à la société, à ce qui se passe autour de moi, et je peux rien y faire. Donc c'est vrai qu'il y a un petit, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu la méthode analytique, bon, le principe c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire que bien sûr il faut prendre son destin en main, mais quand on analyse en termes socio-économiques les problèmes, on va pas dire aux gens, bah écoutez, vous gagnez 500 euros par mois, écoutez, prenez-vous par la main et allez bosser, remuez-vous et puis vous trouverez du boulot, etc. Hein, voilà, donc c'est très cynique. Donc en fait, eh bien, quand on arrive à l'âge de la retraite, on tombe malade parce que, eh ben, en vieillissant, eh bien, on a plus de risques de tomber malade. Hein. Voilà. Alors la formule, vous savez, ce qu'on avait dit là, au moment des manifestations sur les retraites, métro, boulot, tombeau, est plus juste que cette idée simpliste de travailler plus longtemps quand on vit plus longtemps. Hein. Il est à craindre d'ailleurs qu'avec ces considérations purement économiques et moins solidaires sur les questions d'allongement de la vie, que l'euthanasie soit adoptée in fine et en définitive, sans oser le dire, pour ces raisons économiques. Nous serions dans l'horreur économique absolue. Donc, plutôt que de donner aux populations les moyens de se soigner par un accès gratuit aux soins dans le meilleur des cas, hein, accès gratuit aux soins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gratuité, ça veut dire accessibilité à tous. Pour la culture, on en parle beaucoup, les musées qui seraient gratuits, ça veut dire que on y aurait cette l'accessibilité pour tous, hein, à la culture et aux soins, hein, quand même. Parce que réfléchissons un instant. Alors, il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait suffisamment d'emplois, hein, pour cette redistribution. En fait, on choisit sans complexe et sans état d'âme de culpabiliser les citoyens et de les soumettre à des situations, donc toujours ce même discours, pour lesquelles on n'aurait pas le choix. La santé, ça coûte cher. L'allongement de la durée de la vie implique des solutions économiques à la charge des populations. Donc, payer pour les soins et travailler plus longtemps. Bon, ben, c'est tout simple, hein. L'équation est d'une simplicité affligeante. Dans son ouvrage L'inégalité nuit gravement à la santé, donc un auteur, Richard Wilkinson, montre que les indicateurs de la santé publique sont moins tributaires de l'offre médicale que des conditions socio-économiques dans lesquelles les individus vivent et travaillent. Donc, il donne, bon, je vous passe les citations peut-être. Par exemple, il montre que les Grecs, dont le revenu moyen est inférieur de moitié à celui des Américains, donc revenu de moitié inférieur à celui des Américains, sont néanmoins globalement en meilleure santé que les Américains. Donc, alors, par exemple, vous savez que les agences de notation ont baissé la note de la Grèce, hein, il n'y a pas longtemps, et puis ils continuent de la baisser. Or, un bon gouvernement, là encore, c'est un choix politique. Un bon gouvernement ne serait pas celui qui donne les moyens à ses citoyens de préserver ce qu'ils appellent le capital santé, ou mieux une bonne santé. Est-ce que ce n'est pas une manière de considérer que c'est un bon gouvernement? Et quand on a baissé aussi la note, par exemple, de la Tunisie en pleine révolution, c'était d'un cynisme effroyable. Hein. Et c'est symptomatique de notre vue à court terme des problèmes pour une rentabilité financière immédiate des placements de quelques-uns. Hein. Forcément, ce n'est pas vous, moi, qui gagnons dans cette affaire-là. Alors, cet auteur-là, Wilkinson, 5 ans après son livre L'inégalité nuit gravement à la santé, il écrit un autre livre qui est un titre moins heureux, L'égalité, c'est la santé. Or, en matière de santé, l'égalité est un leurre, tant les injustices sont nombreuses. Injustice, donc, c'est vrai que depuis quelque temps, je vois beaucoup du fait des changements qu'il y a eu dans mon service et dans la configuration hospitalière à Marseille, autant à regrouper, à faire des pôles d'excellence. Bon. Alors, on sait ce que ça veut dire, hein. C'est en fait mettre des moyens en commun pour réduire justement le personnel, etc. Hein. Bon, faut pas se leurrer. Donc, et en même temps de déplacer, bon, c'est enregistré, mais bon, ça ne fait rien, déplacer les activités hospitalières des quartiers plus riches vers les quartiers pauvres, hospitalières publiques, donc laisser le privé, laisser les quartiers riches au privé. Ben, bon, c'est quand même très clair à Marseille si vous regardez la carte. Alors, bon, je prends le... Comment? Non, non, mais c'est partout, hein, sûrement. Hein. Donc, la mucoviscidose, je vous donne l'exemple, par exemple, de jumelles qu'on connaît. Elles ont 20 ans toutes les deux. Il y en a une qui est en fauteuil roulant, qui attend une greffe. En plus, c'est compliqué pour elle, la greffe, parce qu'elle a un système HLA un peu compliqué. Elle est en fauteuil roulant, sous oxygène. Elle attend depuis 2 ans la greffe. Sa sœur, mucoviscidose aussi, elle voyage dans le monde entier. Alors, je ne dis pas qu'à 30, 40 ans, elle ira pas mal. Mais vous voyez déjà que pour des jumeaux qui ont la mucoviscidose, déjà, ce n'est pas de chance du tout. Mais en plus, des différences. Donc, injustice du cancer, de la myopathie, enfin bon. Nous avons en conséquence plus à lutter contre les inégalités en matière de santé et lutter contre les maladies. Donc, c'est de justice dont nous avons besoin, hein, de justice. Une personne malade, si elle doit en plus prendre à sa charge, ne serait-ce qu'une partie des coûts des soins, subit au moins 2 injustices. Non seulement elle est malade, mais en plus, elle doit payer pour se soigner. Sans parler de l'impossibilité souvent, pour elle, de travailler, d'avoir des enfants, ou de s'occuper. Le nombre de personnes qui se trouvent dans ces situations et qui sont très malheureuses de ne pas pouvoir s'occuper de leurs enfants, autant qu'elles le voudraient, eh bien, c'est une injustice terrible. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous avons besoin de solidarité. Hein. Et notre société tend vers cet individualisme terrible. On le voit bien. Donc, y a à faire passer quand même ce message. Ce serait, comme je vous l'ai dit au début, nos actes de résistance, hein. De faire comprendre autour de nous, petit à petit, que ça diffuse en quelque sorte, que eh bien, cette solidarité, non pas en se disant « c'est moi qui vais être malade » ou « c'est mes enfants », bon, ça, ma foi, tout le monde peut faire ce type de raisonnement, mais ne serait-ce que de voir, d'aller dans les hôpitaux, de voir ces personnes malades, etc., est-ce qu'on peut, alors qu'ils utilisent des taxis pour venir de loin, de Montpellier, mais c'est normal. Vous ne voulez pas en plus à ces patients qui viennent d'être greffés qu'on leur impose de venir en voiture avec leur voiture ou... Non, c'est odieux, c'est pas possible hein, d'accepter qu'on soit aussi égoïste et aussi peu solidaire. Donc une solidarité qui permet non pas l'égalité. L'égalité, c'est alors là, c'est une vraie utopie hein, complète. Là, on est vraiment dans l'utopie telle qu'on peut la dénoncer. Mais une solidarité qui consiste d'abord et avant tout à répartir le mieux possible les richesses d'un pays. Hein. Voilà, on est solidaire. Donc, Wilkinson montre que dans les sociétés hors normes, eh bien, ces sociétés, aussi bien s'agissant de leur égalitarisme que de la santé de leur population, le recoupement des résultats indique qu'elles connaissent aussi un degré de cohésion exceptionnel. Hein. Les sociétés hors normes, où il y a cette solidarité au niveau de la santé, cette prise en charge, eh bien, sont aussi des sociétés où il y a un degré de cohésion exceptionnel. Et il dit, c'est comme si les écarts de revenus créaient ou exprimaient la fragmentation et la division sociale. Hein. Ça va ensemble. Les écarts de revenus vont avec des sociétés où il y a une division sociale très forte, hein, chacun pour soi en quelque sorte. Donc notre société est de plus en plus inégalitaire, avec une hiérarchisation de plus en plus verticale qui impose sa violence et son modèle. Lorsque quelqu'un comme Fukuyama, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui parle de la fin de l'histoire dans les années 90, ça ne vous dit rien. Donc il prend, c'est un Américain d'origine japonaise, et il prend cette question de la fin de l'histoire en disant, ben voilà, la Shoah, il y a eu le Cambodge, il y a eu des horreurs, malgré les progrès censés arriver du fait de la technique, du fait de l'évolution des mentalités, etc., des progrès divers et variés. En même temps, il dit que les totalitarismes se sont effondrés. Hein, en gros, enfin, c'est un petit peu sa thèse, je vous la simplifie, enfin, en tous les cas, comment je l'ai comprise. Donc, les totalitarismes se sont effondrés. Donc, c'était après l'effondrement du régime communiste soviétique, effondrement d'un certain nombre de totalitarismes. Donc, il dit finalement, la démocratie libérale, la fin de l'histoire pour lui, c'est le fait que la démocratie libérale, c'est ce qu'il y a de mieux et on ne dépassera pas ce mieux-là. Or, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on voit dans nos sociétés démocratiques, avec le néolibéralisme qui s'est développé, le capitalisme financier, eh bien, on est dans une phase de l'histoire où on a cette exclusion hein, qui est de plus en plus importante, exclusion sociale, qui fait que ce progrès qu'il considérait comme possible pour tous les pays qui choisissaient la démocratie, au sens tel qu'on l'entend en Occident, eh bien, tout le monde irait mieux. Hein. On aurait des sociétés assez égalitaires, etc. Or, ce qui s'est passé, eh bien, on le voit aujourd'hui, c'est avec ce capitalisme financier qui s'est développé de manière... le libre marché, hein, ils vantent le libre marché, etc. Eh bien, cette évolution, on voit bien aujourd'hui qu'elle est contre-productive hein, et qu'il y a une exclusion sociale très forte. Et d'ailleurs, il dit d'ailleurs que la pauvreté ne s'évalue plus en niveau de revenus, mais en termes d'exclusion sociale. Hein. C'est l'exclusion sociale qui permet d'évaluer la pauvreté. Les pauvres, ce sont les exclus, et dans notre société, il y en a de plus en plus. Donc il dit, par exemple, dans un monde où la survie quotidienne des individus ne dépendrait pas de l'état de leur compte en banque, mais de la solidité de leurs liens réciproques, l'exclusion sociale serait forcément considérée avec horreur. On n'accepterait pas. Et il dit que justement, dans ces sociétés hors normes qui sont égalitaires du point de vue de la santé, eh bien, il y a donc cette cohésion, ce degré de cohésion assez exceptionnel. Donc, nos dispositifs de normalisation actuels qui prennent la forme comme objet et moyen de contrôle social participent à la promotion de certaines valeurs sociales et culturelles et assurent la servitude sociale des individus en échange d'un droit d'accès aux jouissances individuelles et collectives. Donc, actuellement, eh bien, ce qu'on nous inculque, enfin, heureusement, on n'est pas tous soumis à ce type de normes, mais voilà, il faut consommer aussi, bah, c'est ce qu'on veut, hein, consommer des pots de yaourt, voyager en train, etc. Il faut consommer par tous les moyens pour faire tenir cette société économique qui est la nôtre. Il faut que ça marche, que cette économie tourne. Donc avec Michel Foucault, nous pensons qu'aujourd'hui, notre société se trouve toujours davantage articulée aux normes qu'aux lois. Donc, le pouvoir de la loi n'aurait pas régressé, mais il s'intègre. Le pouvoir actuellement, c'est celui de la normalisation. On normalise, hein, comme dit Roland Gori, on normalise les individus, les humains, comme on calibre les tomates au niveau européen. Donc, c'est la même... la même logique hein, de nous calibrer hein, pour faire de nous quoi, des consommateurs, hein, tout simplement. Il faut qu'on consomme, sinon tout s'effondre. Si on ne consomme plus, il y a tout qui s'effondre. Et donc, ce n'est pas finalement la responsabilité d'un seul ou d'un pouvoir bien spécifié. Hein. C'est globalement le système qui devient, qui a pris cette... cet aspect, hein, cette forme. Donc, dans la réflexion de l'appel des appels, eh bien,